Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Autonome de solidarité laïque. L'ASL œuvre depuis plus d'un siècle pour accompagner les personnels d'éducation face aux risques de leur métier. Cette série de podcasts a pour vocation de vous familiariser avec des notions juridiques qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter mes échanges avec Maître Florence Leck, avocat au barreau de Paris, avocat conseil national de l'ASL et avocat de la délégation des Hauts-de-Seine de l'ASL sur la question du numérique, de ses risques dans le cadre scolaire et des recours possibles pour les personnels victimes. Maître, les outils numériques sont de plus en plus usités dans le cadre scolaire. Y a-t-il dès lors de nouveaux risques pour les personnels d'éducation ?
Les nouveaux usages, en particulier les classes en visio, ont apporté de nouveaux risques, notamment les cyberattaques ou les usurpations. Vous savez, ce sont les cas où on a des usurpations de comptes, des intrusions lors d'une visio de classe d'une personne anonyme qui vient insulter parfois les professeurs lors d'un cours. Je ne peux vraiment pas généraliser, mais dans mon expérience personnelle récente, ces cas restent très limités et ne donnent pas lieu à des procédures. C'est d'ailleurs ce que l'on constate aussi dans le baromètre de l'ASL.
Quels sont les principaux risques auxquels sont confrontés aujourd'hui les personnels de l'éducation à travers le numérique ?
Alors, à travers les dossiers que je traite, je vois émerger beaucoup d'attaques et de mises en cause d'enseignants ou de personnels de direction, que ce soit sur Facebook, dans des conversations WhatsApp ou ailleurs sur Internet, Snapchat, les autres réseaux sociaux. Cela concerne le plus souvent les personnels du premier degré, avec des parents qui sont encore très impliqués dans l'école et qui se servent de ces outils numériques finalement comme une tribune pour dénoncer les pratiques de corps enseignant la majorité du temps de façon mensongère.
La réponse judiciaire est-elle forcément la bonne lorsqu'un enseignant est mis en cause de la sorte ?
Alors ça va peut-être vous étonner, mais à titre personnel comme avocat, je ne pousse pas à la judiciarisation. C'est une démarche qui peut parfois être lourde. Le temps de la justice, c'est un temps qui est long. Et l'on peut devoir vivre avec une procédure pendant plusieurs années comme une épée de Damoclès sur le dos. Donc lorsque c'est possible et que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale, bien sûr, il faut privilégier le dialogue, il faut privilégier la médiation, la hiérarchie doit jouer son rôle pour apaiser la situation. Et puis parfois, on peut actionner une lettre comminatoire. Une lettre comminatoire peut suffire à désamorcer une situation. Vous savez, la lettre comminatoire, c'est cette mise en demeure, ce courrier d'avocat qui a pour effet donc de mettre en demeure une personne de cesser ses agissements et ses propos.
Pour revenir sur les faits eux-mêmes, pouvez-vous nous réexpliquer brièvement la différence entre diffamation et dénonciation calomnieuse ?
Alors, la diffamation, elle est prévue par les articles 24 et 32 de la loi sur la presse de 1881. La diffamation, c'est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. C'est par exemple le cas d'un chef d'établissement qui est accusé sur Facebook d'être prétendument violent contre un élève. La dénonciation calomnieuse est différente. Elle est prévue par l'article 226-10 du Code pénal. C'est une dénonciation, nous dit le Code, qui est effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexacte lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit un supérieur hiérarchique ou un employeur de la personne dénoncée. Eh bien, cette dénonciation calomnieuse est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les suites judiciaires dépendent donc de la nature exacte des faits et de leur qualification juridique ?
Tout à fait ! Il reviendra à un avocat de procéder à cette qualification en fonction des faits qui lui seront soumis. Des faits de diffamation demandent d'agir rapidement car la prescription est très courte, seulement 3 mois à compter de la première publication. Il conviendra bien sûr de différencier s'il s'agit d'une diffamation privée qui est une contravention et qui sera traitée devant le tribunal de police avec une peine de 38 euros alors qu'une diffamation publique, c'est un délit qui est examiné devant le tribunal correctionnel et qui peut être sanctionné par une amende de 45 000 euros pour un fonctionnaire qui en est victime. Et puis on dispose de plus de temps pour agir lorsque l'on est l'objet de dénonciations calomnieuses puisque la prescription est de 6 ans. C'est une infraction qui toutefois est complexe dans la mesure où le plus difficile est de démontrer que le dénonciateur savait que les faits qu'il reprochait étaient faux ou partiellement faux au moment où il les a dénoncés.
Merci maître. J'espère que les éclairages de maître Leck vous auront permis de mieux appréhender la question des risques numériques pour exercer votre métier plus sereinement. Je vous donne rendez-vous lors de notre prochain épisode que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur notre site internet dans la rubrique podcast et dont le lien se trouve dans la description. À très bientôt !